Nuages d'Hélène. Art. Création. Culture. Promenade. Rencontre. Entretien.
Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Nuages d'Hélène, dédiée à l'exploration des masculinités. Henri Landré et Julien Bélanger sont partis à la rencontre de deux hommes programmés dans le cadre du festival Être un homme, organisé par le Grand T le 4 février dernier. Le premier entretien que nous vous proposons d'écouter est celui de Bruno Chevillon, musicien contrebassiste de jazz. Il nous parle notamment de son émancipation par rapport au modèle de masculinité hégémonique dans lequel il a grandi. À suivre d'ici 25 minutes environ, un deuxième entretien avec Marc Jaja, chercheur en sciences de l'information et de la communication, et qui s'intéresse notamment à la fétichisation du corps arabe masculin dans l'érotique homosexuelle. Bonne écoute.
Au vu de tout ce que j'ai regardé, vu, lu, compris, je sais pas quoi dire en fait. Je sais pas. C'est tellement plein de choses. Ça peut être tellement plein de choses par rapport au choix qu'on fait, par rapport à ce qu'on ressent au fond de son corps. Est-ce qu'on est bien dans son corps? Est-ce qu'on est bien dans sa masculinité? Est-ce qu'on est pas bien? Est-ce qu'on se sent autre? Je sais pas, moi je suis profondément cis, hein, cis hétéro, ça définit pas un homme, hein, clairement pas, comme ça, c'est comme une femme finalement, n'est pas non plus définie par une femme, parce que finalement, à un moment donné, entre tout, tout ce qu'on sait, ou qu'on sait à peine, ou qu'on apprend, je sais pas, je peux pas répondre à cette question, je ne sais pas ce que c'est un homme. Je sais plus en fait. J'ai peut-être pu l'imaginer justement avec mon père. Pour moi, c'était peut-être la figure masculine de l'homme, mais il a quand même bien déconstruit tout seul de son côté. Ça m'a quand même bien chamboulé, quoi.
Je me souviens la première fois où j'ai vraiment, vraiment pleuré. Je m'en souviens bien parce qu'il y avait des gens autour de moi, des gens qui souriaient parce qu'ils allaient faire la fête. Et faire la fête, ça donne le sourire. En revanche, se faire couper le prépuce sans anesthésie, beaucoup moins. Mon vrai souvenir de vrai pleur, c'était en Algérie, lors de ma circoncision. Un coup de lame de rasoir et j'étais devenu un homme. Ensuite, il fallait oublier cette douleur, comme pour ma naissance. Tout le monde autour de moi chantait et dansait, et moi je pleurais. Alors quelqu'un s'est approché de moi et m'a dit « Arrête de chialer ». Et j'ai arrêté de chialer. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais personne ne m'avait dit la vérité. Que la vérité des larmes, c'est le renoncement à l'Éden. Qu'en m'empêchant de pleurer, je me coupais définitivement et brutalement de l'enfance. J'espère être de la dernière génération de garçons à qui on a volé le droit au chakra.
Je suis vraiment issu d'un milieu très patriarcal, hein. C'est-à-dire que je me suis rendu compte de l'effet toxique que pouvait avoir un homme sur sa femme avec mon père et ma mère, en fait, en réalité. Alors, bon, je dis ça, ça a l'air un petit peu violent, comme je le dis. Aujourd'hui, c'est un vieux monsieur, donc je lui en veux pas du tout. Mais je sais que ma maman était italienne, qu'elle était dans un milieu très artistique, à Milan. Elle avait des frères qui étaient dessinateurs, peintres. Elle a été comédienne de théâtre. Elle avait passé le concours pour être au Piccolo Teatro de Milan, qui était un théâtre très connu, qui venait juste d'être pris par un metteur en scène très célèbre, qui s'appelait Strehler, qui a vraiment été un des grands personnages du théâtre en Italie. Elle a été mannequin de mode. Et le hasard fait qu'elle rencontre mon père, français. on va passer les détails, mais que d'un coup, elle, par amour, hein, parce qu'il y a quand même une dimension amoureuse très forte qui fait que, elle est partie de ce milieu-là qui était très riche, foisonnant, ouvert, beau, pour venir s'enterrer dans une petite ville du sud de la France, hein, où je suis né, et avec un renoncement qui, évidemment, pas tout de suite, mais que j'ai commencé à constater quand j'ai commencé à être un peu adolescent, quoi, quand j'ai commencé à me dire « mais à quoi ma mère a renoncé ?» Et c'est là, en tout cas, que j'ai vu l'impact de l'univers du masculin, en fait, à ce moment-là. Et ça m'a beaucoup attristé, en fait. Et j'ai, curieusement, j'ai eu beaucoup de mal à en parler avec ma mère, de savoir ce qu'elle avait vécu par rapport à ça. Mon père était représentant de commerce, donc elle ne travaillait pas. Il amenait les sous, il mettait les pieds sous la table, et c'était comme ça. Et ça a fonctionné comme ça, et finalement, ils sont restés ensemble toute leur vie. Ils avaient l'air toujours très 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 amoureux. Mais derrière ça, il y a quand même un renoncement qui est quand même vraiment violent. Et peu de temps avant qu'elle meure, j'ai parlé de ça avec elle. Et elle m'a dit qu'elle avait failli partir. Mais elle avait failli partir très vite, en fait, juste après ma naissance. Elle a mis ça dans sa poche, elle a couvert ça avec des mouchoirs et puis elle a vécu avec ça. Et donc cette idée du genre, en tout cas du genre masculin, et avec tout ce que ça implique de violence par rapport aux femmes, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a quand même travaillé. Et puis j'ai lu un bouquin je crois que c'est un sociologue, j'ai oublié le nom, qui s'appelle Descente au cœur du mal, le mal, hein, pas le mal, mais le mal, qui est un petit bouquin dont j'avais entendu parler sur France Q, que j'ai acheté parce que je trouvais passionnant ce que racontait l'auteur de ce petit livre-là. Et en fait, ça m'a vraiment bouleversé parce que j'ai pas l'impression d'être un homme... Qui est insensible aux femmes, mais il y a toujours un moment où, à un moment donné, on est touché par notre éducation masculine. Il y a toujours un moment où on se dit « Ah oui, mince, là, effectivement, j'ai pu penser comme ça, j'ai pu réagir comme ça, j'ai pu faire des blagues comme ça, toutes ces choses-là. » Et ça, c'est assez douloureux. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été assez douloureux. Pas oublié que j'habitais quand même dans une toute petite ville, hein. C'était entre la ville et le gros village, donc il se passait quand même pas grand chose. J'avais pas de copines, j'avais essentiellement des copains, c'est un peu cliché, mais voilà, c'était essentiellement des copains, mais j'ai pas le souvenir de quelque chose de très 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 masculin, au sens vraiment, on reste entre mecs, mais quand même, il faut bien dire que c'était ça quand même. Et les amis, eux, sont arrivés plus tard, sont arrivés vraiment, même pas au lycée d'ailleurs, il y avait un côté très 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 masculin, on était très reliés par rapport à la musique, je me souviens quand même, le rock, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de filles avec nous. Les deux milieux étaient quand même assez séparés comme ça. C'est aux Beaux-Arts que tout a changé en fait. Là d'un coup, tout s'est ouvert et la rencontre c'est vraiment faite avec les filles à ce moment-là, qui étaient en plus des filles qui avaient vraiment des gros 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 caractères, et nous on trouvait ça génial, et moi je préférais être avec elles qu'avec les mecs qui étaient un peu éteints, il faut bien dire, à cette époque-là en tout cas, et c'était beaucoup plus chouette à ce moment-là. Et puis, on parlait tout à l'heure de l'adolescence. Ça a été un moment, évidemment, comme pour tous les enfants et les parents, puisque je suis parent, donc je sais ce que c'est des deux côtés. C'est des moments tellement difficiles. Et mon père était... il n'est pas mort, hein, mais j'en parle au passé, parce qu'aujourd'hui, je le laisse tranquille avec ça. Mais il était très, 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 et je pense qu'il l'est toujours, mais maintenant on évite les discussions problématiques. Mais il était très homophobe. Très, très, très homophobe. Et au moment de la construction de ma conscience politique, on va dire, j'ai très, très mal supporté ça, quoi. J'ai vraiment très, très mal vécu cette chose-là. Bon, ça allait avec le racisme, avec des tas d'autres choses, hein, s'il n'y avait pas que ça. J'entendais des horreurs, vraiment. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte de ce que ça pouvait être d'être homosexuel, quoi. Que ce soit essentiellement des hommes pour lui, parce que finalement, on va savoir pourquoi, les femmes, c'est bon. Finalement, c'est pas tout à fait normal, mais bon, ça passe à peu près. Mais alors les mecs, ça, c'était pas possible. Et j'ai vraiment entendu des horreurs. Et je me suis... au milieu de toute cette bataille père-fils, je me suis mis à défendre beaucoup cette chose-là, au point qu'un jour il m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe là ? T'es pédé ou quoi ?» Et ça, j'ai jamais oublié quand même, cette phrase-là. Et j'aurais peut-être dû lui dire oui, même si c'était non, mais voilà. En tout cas, ça a été difficile, ça, vraiment. Et là, donc il y a eu une rupture qui a été assez, assez flagrante, quoi, à ce moment-là. Quand je suis rentré au conservatoire, il n'y avait pas de filles, du tout. Enfin, en tout cas, en contrebasse. Hein. Il y en avait plus dans les classes de violon, de piano, des choses comme ça. Mais en contrebasse, il n'y avait que des mecs, ça c'est évident. Alors, il y a des musiques dans lesquelles c'est moins vrai. Dans la musique classique, il y a beaucoup plus de femmes. Mais dans le jazz, c'est vrai que j'ai eu des grandes discussions avec Joël Léandre là-dessus, qui est très, très, très... qui, avec son petit accent d'Aix-en-Provence, me disait « Ouais, il faut que tu comprends pas, il n'y a pas assez de femmes, il faut qu'il y ait des femmes, comme ça. » J'ai dit « Ben oui, Joël, je veux bien, mais tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Mais pourquoi il n'y en a pas beaucoup ?» Donc elle s'énerve tout de suite. Et j'ai dit « Ben écoute, je ne sais pas, il n'y en a pas beaucoup. » Voilà, il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que c'est compliqué pour nous. Et puis maintenant, on nous demande beaucoup de prendre des femmes, absolument. Donc ça, c'est compliqué aussi, parce que, encore une fois, est-ce qu'on prend des filles parce que c'est des filles, ou est-ce qu'on prend des filles parce qu'elles nous intéressent ? C'est très, très, très complexe, cette idée-là. Encore une fois, je me fiche complètement du genre, voilà, sur ce coup-là. C'est vraiment... Mais c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. On est quand même modelé, quand même. C'est une attention de tous les moments. Hein. On peut très très vite se laisser aller à des choses. Alors bon, moi j'ai l'impression d'être un mec plutôt bien, on va dire entre guillemets. Mais je fais quand même très attention. Ça demande une déconstruction à certains endroits, quoi. Bon, moins maintenant, mais je ne sais pas s'il faut dire ça ou pas. Mais moi, je suis très 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 féministe. J'ai eu des grandes discussions avec des amis qui étaient plutôt des gens chouettes aussi, des gens féministes, qui supportent mal quand même aujourd'hui que cette espèce de retour de bâton assez musclé de la part des femmes. Moi, il me semble qu'on est bien obligé d'en passer par là pour qu'au moins on arrive à un degré, on va dire zéro d'égalité, où les choses vont peut-être plus se calmer après. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut, on est bien obligé. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais de s'en prendre un peu plein la figure, quand même. Alors après, on se sent plus ou moins concerné, mais effectivement, il y a un héritage qu'on ne peut pas nier, et on en fait partie. Et même si on pense être quelqu'un qui s'est posé la question et qui est plutôt quelqu'un de bien avec la gente féminine, je pense que de toute façon, on a des luttes intérieures à faire quand même tous les jours, quoi. C'est devenu assez naturel, en fait. Il me semble que l'équilibre est bien foutu là, entre moi et ma compagne. J'ai pas l'impression de faire des efforts particuliers. Tout se goupille bien, parce que je pense que j'ai avalé le truc. Après, moi, je me suis laissé, en tant que petit garçon, complètement servir par ma mère, comme elle servait mon père. Aussi parce que j'étais enfant. Moi, avec mes enfants, je fais la même chose. Mais par contre, je sensibilise beaucoup mon fils par rapport à ça, par rapport à comment, ce qu'il va falloir, sur lequel il va falloir qu'il fasse vraiment attention par rapport aux femmes. Il a 15 ans, mais évidemment, à 15 ans, aujourd'hui, malheureusement, on a beau faire attention, il y a toujours à un moment donné le film porno qui débarque un petit peu dans leur vie d'un éveil à la sexualité. Et c'est une imagerie qui est évidemment très, très, très toxique et très, très, très nuisible par rapport à ça. Donc, d'ailleurs, avec sa maman, on le prévient de ça. On lui dit attention, attention, fais bien attention. Mais il va être chouette. Il va être chouette. Oui, oui, oui. Mais on garde ma fille aussi, hein, évidemment. Hein. Je la mets en garde. Mais elle est bien, cette petite, comme on dit dans le sud, chez moi. Elle sait se défendre. Elle sait déjà se défendre avec son frère, qui quelquefois joue aussi d'une masculinité. Hein. Il faut bien le dire, ça c'est assez troublant aussi. Hein. Pourtant, il n'est pas né dans un milieu où, à un moment donné, la figure du mâle est prédominante, loin du tout. Mais il y a quand même un truc, c'est quand même troublant. Quoi. C'est-à-dire que c'est du jeu. Mais il faut faire attention, c'est du jeu, mais à un moment donné, alors bon, évidemment, ils ont une grande différence d'âge, donc il y a aussi le cliché entre le grand frère et la petite sœur. Mais il faut bien resserrer les boulons tout le temps. Donc moi, mon combat, il va être là, il va être à travers eux. En fait, quand j'ai décidé de faire ce solo, au début, Pasolini n'était pas là. Hein. C'était juste... J'avais l'idée de faire un solo, de mettre un petit peu à plat, une sorte de, un peu d'état des lieux de ce que j'avais un petit peu développé sur l'instrument au fur et à mesure de toutes les rencontres que j'avais eues jusque-là. Et assez rapidement... Je me suis dit, bon, ben, solo de contrebasse, mais c'est peut-être un peu chiant, ça, quand même, non ? Qui va écouter ça, à part les contrebassistes ? Et la figure de Pasolini est arrivée assez vite, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'Italie, pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que je suis bilingue, l'image... Parce que d'une certaine manière aussi, c'était une manière de montrer que j'étais contre mon père, toujours, finalement. Voilà, parce que non seulement il est... C'est horrible, hein, je suis obligé de dire ça, mais... Il est homophobe, mais en plus, évidemment, il est limite extrême droite. Donc là, on en parle quand même de quelqu'un qui était très... Très, très lié à la gauche italienne. Donc voilà, même s'il y a eu des choses un peu étranges chez lui, mais... Donc voilà, donc c'était vraiment tout était là, quoi, entre l'Italie. Et puis c'était le personnage protéiforme, moi, qui m'intéressait beaucoup, quand même. C'est-à-dire que chez Pasolini, il y a quand même ce bonhomme qui, selon ce qu'il a envie de raconter, de dire, va utiliser des moyens différents, que ce soit la littérature, le cinéma, la poésie. Donc c'était un support qui était vraiment... hyper intéressant pour moi, même si j'ai travaillé exclusivement sur la poésie, mais le personnage en lui-même était quand même toujours très 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 présent par rapport à ça et sur toutes ces choses-là. Donc évidemment, je me suis posé toutes les questions de sur l'homosexualité par rapport à ça et aussi sur le danger que ça représentait effectivement à cette époque-là, et puis qu'est-ce qui s'est passé dans la mort de Pasolini, entre ce que disait son grand ami Moravia et ce qu'on a imaginé après. Il y a tout ce mystère autour de la mort de Pasolini qu'on pourrait rattacher d'ailleurs aussi à la peinture de la Renaissance italienne ou au Caravage, dans le fait de, de, d'être mort, presque d'être allé chercher presque la mort, peut-être. On ne sait pas si c'est l'État qui a voulu se débarrasser de lui ou si, au contraire, il est allé aux confins du danger pour savoir ce qui allait se passer et jusqu'à mourir, finalement. Ce qu'on trouve aussi dans la peinture, une sorte d'admiration de la victime avec le bourreau, toutes ces choses-là. Moi, j'avais un ami quand j'étais aux Beaux-Arts. Ça m'avait beaucoup, beaucoup troublé. Qui était homosexuel et qui, à Avignon, allait très, très fréquemment au bord de la rivière, là où la Durance vient se raccorder au Rhône. Il allait là-bas, dans la nature, en fin de semaine, le soir, pour avoir des liens avec des hommes. Et régulièrement, il se faisait casser la gueule par des mecs, tout le temps. Et il retournait tout le temps là-bas. Il retournait. Et ça j'avais beaucoup discuté avec lui, parce que c'était un garçon que j'aimais vraiment beaucoup. Je ne comprenais pas. Et il y avait tout ce truc par rapport à la violence qui, pour moi, était incompréhensible. Mais il a cassé la gueule par d'autres homosexuels aussi. Il y avait un truc qui était vraiment tellement étrange. Je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Et régulièrement, il retournait là-bas. Il me disait, j'ai besoin de ça. Et c'était vraiment pour moi, mais je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui se passait par rapport à ça. C'était très curieux. Là, c'est marrant parce que j'ai pas parlé de ça depuis des années. Ça me revient là d'un coup comme ça. Mais là, après le festival, je pense que je vais ça va travailler. Puis le personnage que j'incarne là dans la pièce, il est troublant aussi. Il est très 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 troublant. C'est la première fois que je fais vraiment quelque chose de vraiment performatif comme ça. Donc en plus, je suis une sorte d'être un peu hybride. Avec des attributs féminins, des comportements masculins, des choses une sorte d'étrange présence. Donc ça me travaille ça quand même. Ouais. Et puis physiquement, ça me travaille beaucoup aussi. Et à quoi penser quand on fait certaines choses de ce type-là, quand on investit un corps qui n'est pas qu'un corps d'instrumentiste, qui est aussi un corps de je dis ça vraiment avec des grands guillemets, hein, de comédien, quoi. Donc, j'ai pas de texte, hein, mais il y a une dimension physique qui est très inhabituelle pour moi et qui est profondément liée au sujet général du festival.
Vous venez d'entendre un entretien de Bruno Chevillon mené par Henri Landry. Une discussion en écho à une programmation spéciale de Jet sur les masculinités toute cette semaine. Nous continuons tout de suite avec une seconde interview. Au micro de Julien Bélanger, Marc Jaja, chercheur en sciences de l'information et de la communication, évoque notamment la fétichisation du corps arabe masculin dans l'érotique homosexuelle.
Je suis Marc Jaja, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université de Nantes, à l'IUT de La Roche-sur-Yon, dans le département information-communication. Donc je suis chercheur en sciences de l'information et de la communication.
Merci d'être venu jusqu'à Jet FM. On va passer un petit moment ensemble pour que tu nous relates un petit peu ta participation sur l'événement du Grand T Être un homme. Donc on a 4-5 questions qui sont les questions communes qu'on pose aux 4 invités qu'on va recevoir.
Ça marche.
Quel est le lien entre le travail d'un chercheur, ton travail de chercheur et ton travail d'enseignant aussi, et un événement culturel porté par le Grand T qui s'appelle Être un homme?
Alors, ce qui est peut-être important à dire, c'est que à l'origine, en tant qu'enseignant-chercheur, j'avais une thématique qui était ciblée, qui était focalisée sur les mondes éditoriaux et sur la culture numérique. Donc, je suis venu à la question des masculinités, du genre et de la fétichisation raciale. On pourra en parler un peu plus tard, de manière, je dirais, concomitante à des interactions et à des expériences que je faisais sur une application de rencontre. Et il y a un phénomène concrétisant qui s'est mis en place, d'assemblage entre le fait d'être chercheur, le fait d'être enseignant et le fait d'avoir des expériences dans ces dispositifs-là, où j'ai vu une opportunité de terrain qui s'est mise en place très lentement. Donc le lien, il s'est fait vraiment de manière naturelle, je dirais même organique, avant d'en faire un objet de recherche, un objet scientifique. Dans le cadre du grand T, donc la thématique porte sur être un homme, et il se trouve que ces cinq dernières années, du fait de mes expériences sur des applications de rencontres entre hommes, je faisais régulièrement l'objet de ce qu'on appelle aujourd'hui la fétichisation raciale, qui consiste soit à admirer de manière excessive, soit à manifester une certaine crainte envers des personnes, généralement de couleur, qui vont être célébrées précisément, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, pour des traits de masculinité fantasmés, fantasmagoriques, hégémoniques. Leur virilité supposée, leur violence supposée, bref, tout ce qui est attendu des Arabes et des Noirs dans la représentation médiatique coloniale de la France au XXIe siècle. Et donc je voyais bien que mes interlocuteurs me saisissaient avec ce prisme-là et qui me demandaient de performer ce type de masculinité qu'on appelle hégémonique et qui empêche aux personnes de couleur de jouer d'autres scripts, d'exprimer d'autres manières d'être, d'autres masculinités. Donc voilà quelle est ma place aujourd'hui dans le grand T, c'est d'articuler des questions de genre avec des questions de race.
Est-ce que tu pourrais dater, documenter, expliquer, trouver une anecdote un moment clé de ta vie où du coup tu as aperçu qu'il y avait certains privilèges finalement d'être un homme.
Oh bah des privilèges, on en a, je dirais, quotidiennement, de manière ordinaire, et c'est tout le, je dirais, c'est toute la stratégie ou le génie du pouvoir que de naturaliser à ce point ces privilèges ou ces avantages qu'on ne les voit même plus, parce qu'il y a une forme de trajectoire comme ça. Biographique qui permet aux uns et aux autres d'obtenir des places, de se faire mieux entendre dans des colloques. Alors, c'est peut-être depuis que je suis petit, hein, je m'en rends compte quand même, hein, dans la place qui nous est faite au moment de parler, jusqu'à dans les travaux avec des étudiants ou sur une classe dans le département Infocom de l'IUT de La Roche-sur-Yon. Une classe où on a peut-être 50 étudiantes pour 10 étudiants, les mecs prennent la place dans les oraux, une place prépondérante et extrêmement, extrêmement visible. Eux-mêmes ne s'en rendent pas compte, hein, parce qu'ils sont sociabilisés depuis qu'ils sont petits pour prendre de la place, pour performer également un discours, pour étendre leurs gestes. Et donc, je dirais que tout est ajusté pour qu'ils puissent prendre cette place-là, jusqu'au format qu'on propose. Donc il y a eu d'abord, alors depuis que je suis petit, bien évidemment, hein, toutes les places que j'ai pu prendre, les micros qu'on a pu me tendre, etc. De manière beaucoup plus explicite et visible, parce que j'étais dans observateur, bah, il y a eu dans le département Infocom, je me rends compte depuis que j'enseigne, hein, depuis une dizaine d'années, mais surtout là depuis 5 ans, où je suis un poste d'observation privilégié. Et puis, c'est également des copines. Je me souviens d'une amie qui, en conférence, alors qu'on était en binôme, systématiquement, quand les gens posaient des questions, c'était des questions qui étaient orientées vers mes propres contributions. Donc, il fallait faire un travail permanent pour réajuster la parole, pour tendre le micro vers cette amie. Mais comme elle n'a pas été sociabilisée pour pouvoir être entendue dans ce type d'espace qui sont taillés à notre mesure, elle-même n'osait pas prendre le micro. Et à l'époque, donc c'était il y a 5 ans, hein, je maîtrisais moins peut-être la théorie ou ces terrains. Je ne comprenais pas très bien ce qui se jouait. Et j'ai fini par comprendre qu'il ne s'agit pas uniquement de tendre le micro pour mieux faire parler ou pour plus faire parler. Il s'agit de créer le dispositif, qui permet un dispositif ou un espace acoustique qui permette aux personnes qui ont été sociabilisées d'une certaine façon et qui ne sont pas taillées pour des dispositifs masculinistes, de prise de parole, où on doit se faire entendre, où on doit se battre pour avoir la parole, de se faire entendre. Donc ce qui amène aussi à réajuster aussi les manières de se tisser, de parler, d'être ensemble. Alors les féministes ont par exemple proposé, je trouve ça très inspirant, et je pense que c'est à la fois inspirant et utile pour tout le monde, puisque en tant qu'universitaire, tout le monde arrive dans un état un peu de, je dirais, de peur ou de crainte au moment de faire une conférence. Donc, est-ce qu'on peut pas aussi changer les dispositifs qui, à partir du prisme de la prise de parole des femmes ou des subalternes, pourraient servir ici à tout le monde, sans que tout le monde prennent de manière symétrique la parole. Je pense qu'il y a aussi amende honorable à faire là-dessus. Mais je pense aux féministes qui proposent, par exemple, des conférences où, lorsqu'on arrive dans une salle, les gens sont en train de tricoter. Moi, je pensais aussi à des espaces où on serait jeté in media res, quoi. Dans la situation, il n'y aurait pas une présentation institutionnelle, officielle, et où pourrait prendre la parole qui veut à n'importe quel moment, en respectant évidemment des règles, hein, qui sont celles des féministes ou des queers, hein, la circulation du bâton de parole, on laisse parler quelqu'un voilà, de manière sans l'interrompre, etc. Mais la question que je me pose, c'est comment parler, en effet, sans devenir soi-même une sorte de ventriloque du pouvoir en place. Et donc pour ça, il faut du temps, il faut un dispositif qui nous permette d'atterrir, qui nous permette de nous déprotéger, comme dirait une amie, Mélodie Faury, de défaire l'armure, d'enlever le vêtement qui nous alourdit, qui nous amène à, du fait des alignements dans lesquels on se trouve, des cadres institutionnels, etc., à performer, à jouer le rôle qui est attendu par une sorte de on indéfini.
Merci. Du coup, la question un peu inverse qui poursuit peut-être ces questions de dispositif et de représentation. Finalement, des fois, on se sert d'un cadre qui nous est profitable parce qu'on représente, en fait, comme tu dis, le pouvoir, la majorité. Du coup,
exactement.
Du coup, on peut inverser du coup, la situation. C'était un peu l'objet de la présentation du grand T, d'être un homme aussi. Des fois, c'est un fardeau, finalement, de porter cette représentation patriarcale.
Je pense qu'il faut situer, en effet, les situations très précises où ce patriarcat assumé ou endossé peut être... Peut-être un fardeau, comme tu disais, ou une malédiction. Ça l'est jamais. Ça l'est toujours dans des contextes situés, pour des personnes, dans des interactions contextuelles. Moi, si j'avais en situer une, c'est dans le cadre d'interactions sexuelles ou dans le cadre des dispositifs de rencontre entre hommes, l'impossibilité d'exprimer un autre type de masculinité, parce que on m'attend toujours pour que je puisse rencontrer. On m'attend toujours sur une en tant qu'arabe. Sur une masculinité dite hégémonique ou patriarcale. Donc on me demande de jouer classiquement, d'une manière stéréotypée, selon les scripts classiques de la colonialité, l'arabe de cité, le banlieusard. Dès qu'on découvre que je suis universitaire, ça ne correspond pas totalement au script. Ou alors ça peut y correspondre si la personne a quelques connaissances de l'arabité libanaise, qui est plus reliée ici à un exotisme orientalisant des mille et une nuits. Donc tout d'un coup, je peux revenir en odeur de sainteté, mais grosso modo, le script qui est principalement imposé est celui de cette typification par un patriarcat arabe fantasmé, qui est lui-même instrumentalisé par le patriarcat blanc. Hein. Donc on a des formes d'alignement ici qui se font, qui permettent peut-être à deux patriarcats, dans des formes de partenariat, de maintenir l'ordre l'ordre établi en place, et par conséquent, à ces occurrences, donc les individus qui s'ajuste sur cet ordre, qui s'aligne sur cet ordre, de bénéficier de ces opportunités. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le patriarcat ou les masculinités hégémoniques sont si difficiles, ou la colonialité sont si difficiles à défaire. C'est qu'il y a des opportunités capitalistes, érotiques, sociales, médiatiques, libérales à gagner. Donc, moi, le principal, je dirais pas fardeau, ce serait exagéré, mais le principal problème que j'identifie, c'est sur mes terrains, et c'est l'impossibilité d'exprimer d'autres manières d'être. Et jusqu'à l'amour, c'est-à-dire que si je ne joue pas le script qui m'est donné, à tout moment, l'interaction risque de rompre, je risque d'être bloqué. Je ne vous dis pas que je le performe très très rarement. Hein. Mmh. Il m'est arrivé il y a quelques années de jouer avec ce script. Aujourd'hui, je suis un peu plus indulgent. Il m'arrive rarement, mais comme il y a des tas d'enquêtes qui ont été faites hein, aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, ou en Australie sur les aborigènes, par exemple, enfin sur tous les subalternes et les personnes de couleur, qui montrent que il s'ajuste au fantasme des personnes blanches et dans des champs sexuels, au sens vraiment bourdieusien pardon, du terme, où le capital est en grande partie porté par les personnes blanches, auxquelles s'ajustent les personnes de couleur.
Il y a un ajustement.
Il y a un ajustement très fin qui permet de définir dans la longue durée, comme on le dit en sens de l'information et de la communication, des valeurs, des normes, des postures, des désirs, des deux côtés de manière asymétrique. C'est ce que j'appelle des paires asymétriques. Hein. Mmh. Qui vont s'opposer noir vs blanc, femme vs homme, mais avec des jeux d'ajustement et puis des opportunités qui peuvent être faites.
Une petite question pour revenir sur un terme que tu utilises souvent, la question du script, ce serait l'histoire qui est écrite pour nous, le fait de rester dans la norme ou on suit un script, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on est à un tel endroit, puis du coup, normalement, on devrait faire ça. Donc, on suit un script, c'est ça la question du script ou du récit ?
Oui, en partie, le script, c'est un concept hein, qui a émergé en sciences et techniques hein, dans les années 90, chez Akrisch ou chez Bruno Latour, qui ont montré que dans n'importe quel dispositif technique, par exemple la radio, par exemple une application de rencontre, par exemple la fabrication d'un robot, un téléphone, etc., il y a un script sous-jacent, qui implicite, une sorte de narration qui est distribuée dans la matière même, adossée à des interactions qui vont être anticipées par les concepteurs d'un téléphone, d'une radio, etc. Donc il y a un script qui sous-tend l'utilisation de ces objets-là, qui vont anticiper les gestes des utilisateurs, leur manière de penser, leur manière d'interagir, pour les amener finalement à utiliser de la bonne façon le téléphone, l'ordinateur, le robot, etc. Et ce que j'ai mis au jour, mais avec d'autres, hein, je suis que dans une chaîne longue de personnes qui ont analysé les dispositifs, alors à la fois de rencontre et puis la question du genre, où la notion de script a été adaptée aux interactions et aux rencontres entre les individus. Quand vous avez une application de rencontre comme Grindr, quand bien même vous ne connaîtriez pas son mode d'emploi, le script de l'application, c'est-à-dire la narration et le récit qui est attendu de vous, la place, vos gestes, ce que vous devez faire, est rappelé systématiquement par les utilisateurs qui pratiquent une forme d'intersurveillance généralisée. Quand vous commencez à utiliser l'application de rencontre Grindr, par exemple, pour discuter ou pour philosopher, que sais-je, on va vous rappeler en permanence aux raisons pour lesquelles on se trouve dans ce lieu-là. Et donc, les gens pratiquent une forme d'orthopraxie, c'est-à-dire qu'ils vous amènent à vous aligner sur ce qui est attendu implicitement et dont personne n'a jamais vu le mode d'emploi.
Donc, du design.
C'est du design, hein, c'est du design de gestes, d'interaction, mais c'est également un design normatif qui va permettre aux uns et aux autres, pour pouvoir se rencontrer, de devoir réaliser le script hégémonique et normatif, c'est-à-dire la rencontre sexualisée entre deux personnes. Et l'une des manières pour des personnes arabes ou pour d'autres personnes noires, etc., de réaliser ce script de la manière la plus pertinente, adéquate possible, script qui, je le rappelle, consiste à se rencontrer le plus rapidement possible pour avoir une interaction sexuelle. C'est un script dominant, je ne dis pas que c'est le seul, mais c'est un script qui est dominant. Et ce script, il va être reconstitué comme un rébus grâce aux fonctionnalités de l'application. Il y a de la géocalisation, il y a une grille de visage avec des corps. Mmh. On comprend très rapidement ce qu'il faut faire.
Mmh. Hein. Il y a un but, objectif très
clair.
Oui,
il y a un objectif très clair qui est distribué dans les fonctionnalités et qui est reconstitué comme un rébus dans une forme d'écriture spatialisée, une toposyntaxe, comme on pourrait dire, par les usagers. Et l'une des manières de réaliser ce script pour les usagers, c'est de performer un rôle qui permette aux uns et aux autres de savoir très rapidement à qui ils ont affaire. Donc, pour les personnes arabes, de jouer l'arabe, qui est attendu d'eux, pour des personnes un peu plus vieilles de jouer le daddy, pour une personne plus jeune, frêle et blanche de jouer le twink. Mmh. Bref, on performe des catégories pornographiques qui vont nous permettre très rapidement de discuter, de nous rencontrer et de réaliser un script qui a été défini à la fois par l'application et qui est retrouvé par les usagers de Grindr.
Tu as des choses à nous faire écouter? Est-ce que tu veux nous présenter deux extraits sonores ou est-ce que tu veux parler aussi de pratiques artistiques?
Non, je peux parler de... Je pourrais vous présenter des... donner quelques éléments de performance ou de compte, par exemple, sur Instagram ou sur YouTube qui essaient de défaire ces matrices. Il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle l'arabe de cité, le banlieusard qui est fétichisé, fantasmé pour des raisons classistes, coloniales, etc. C'est un script, lui aussi. C'est un agencement de sens qui fabrique de l'attention sexuelle, de l'attention sexuelle. L'une des raisons peut-être de défaire ce script ou de cet agencement, c'est de comprendre comment fonctionne cette tension-là et comment le pouvoir passe par nous-mêmes. Si le capitalisme aujourd'hui et si la colonialité et la sexualité coloniale arrivent à se maintenir, c'est que, pour le dire de manière très grossière, ils arrivent à nous faire bander, en fait. C'est très simple. Il y a un agencement qui se met en place. Avec un projet communicationnel, se retrouver très rapidement pour avoir un plan cul, on met en place des catégories qui ont été forgées au cours des siècles, qui sont très lisible socialement et médiatiquement. Donc, pour se rencontrer, c'est très facile. Hein. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui un rebeu sexualisé, fétichisé, etc., en fait, il est à un point d'articulation entre différentes logiques temporelles, économiques, sociales. Donc, pour pouvoir contrebalancer ces logiques-là, faut être costaud. Hein. Ça va être très long. Alors, on peut jouer sur différents canaux, à mon sens. D'une part, c'est ce que j'essaie de faire avec d'autres. Hein. D'abord, c'est simplement, et c'est ce que font généralement les universitaires, c'est de la pédagogie. Mais elle est très limitée. Je veux dire, quelqu'un qui fétichise et qui est inscrit dans des logiques capitalistes, avec un compte OnlyFans qui va lui permettre, en fétichisant des Arabes et des Noirs, de contracter sur Twitter des abonnements. Je veux dire, vous avez beau lui dire « tu fétichises », et j'en ai vu plein à qui on faisait la leçon, ils vous bloquent, et puis ça va très vite. Donc, la pédagogie fonctionne qu'avec des gens qui sont déjà acquis à cette cause, mais elle permet peut-être, avec des effets de résonance constitutive et des effets de propagation progressivement... convaincre et défaire en transformant tout le monde en gardien, finalement, questionneur des matrices de domination et donc gardien du corps de l'autre et du soin apporté à l'autre. Donc le premier point, c'est la pédagogie, mais qui était, je pense que c'est là le point le plus évident. Le deuxième point, pour moi, c'est l'interruption. C'est une pratique esthétique qui est pas mal utilisée par les queers qui vont reprendre dans des stratégies de désidentification, comme le dirait Munoz, les codes attendus et hégémoniques de ces plateformes-là, mais pour les renverser, pour les altérer. Donc, par exemple, c'est ce que vont faire sur Instagram des gens comme Toufik, qui vont, je te donnerai l'adresse si tu veux de son compte Instagram, qui va reprendre les codes attendus donc de la colonialité et des sexualités hégémoniques virilistes en se présentant comme un arabe avec une barbe par exemple, et il va introduire des altérations. Donc on va découvrir que l'arabe avec une barbe, il porte des talons par exemple, ou du rouge à lèvres, etc. Quelqu'un d'autre comme Jardin d'Éden aussi qui va interrompre ces logiques-là ou qui va les défaire progressivement en modifiant la trame initiale. On le voit jouer le rôle d'un arabe de cité, mais qui se maquille. Et donc, il va reprendre toute la logique attendue et le jeu attendu autour, par exemple, des objets qui va sortir de sa veste et dont on peut penser quand on le regarde que c'est de la cocaïne ou de la drogue. En fait, on découvre que c'est une palette de maquillage et donc il va se maquiller. Donc, il défait
le geste,
le script, mais également le vocabulaire qui va avec pour le rendre. Pour le rendement opératoire, hein, d'une certaine manière, en amenant les individus finalement à avoir une sorte de réflexivité par rapport à ça. Moi, ce que j'essaie de faire également, c'est des performances, par exemple à ASMR, où je décontextualise.
ASMR, c'est. Des...
Ouais, c'est des. Voilà. Je pense qu'il faut juste le montrer comme c'est ça. Parfait. C'est une sorte de narration sonore. Mmh. Voilà. Donc j'ai fait une liste à partir de mon auto-ethnographie de phrases racistes que je recevais sur Grindr et que d'autres recevaient. Il y a un compte sur Instagram sur les racisés de Grindr, hein, qui est tenu par une personne tout à fait remarquable sur ces sujets, qui intervient régulièrement dans la presse, hein, en termes pédagogiques. Alors qu'est-ce que je fais? C'est que je décontextualise des phrases qui, sur Grindr, passe pour normal du fait de la mythologie de Grindr, où il faut pas se prendre la tête, où on n'est pas là pour philosopher. Donc en fait, en reprenant ces phrases, en les décontextualisant et en les insérant dans un dispositif ASMR, du coup, je les fais entendre différemment, en obligeant l'interlocuteur, l'auditeur, à tendre l'oreille. Donc par exemple, je vais réciter des phrases du genre « T'es intelligent pour un arabe. Tu veux pas me violer dans ta cave. » Tu veux pas castrer un minet blanc inutile. Et tout d'un coup, on entend pour la première fois peut-être ce qui était inaudible dans les applications de rencontre. Et puis depuis quelques temps, voilà, je crée des petits récits qui reprennent toute la trame de l'auto-fétichisation, de l'auto-racisation attendue par les personnes blanches des Arabes. Et j'introduis des altérations au sein de ces petits récits. Donc je vais me présenter sur Instagram comme un rebeu qui est là pour faire raquer, par exemple, ces salopes de blanches. Et dans les hashtags, je vais mettre make-up, je vais mettre maquillage, ou je vais utiliser un filtre Snapchat pour faire apparaître une barbe dont tout le monde voit qu'elle est une barbe. Donc, c'est des formes de performance ostensive où je pointe avec mon propre doigt ce que je suis en train de faire pour amener les personnes finalement à porter un regard critique sur ce qu'elles regardent. Donc, je dirais la pédagogie, des agencements qui sont des faits, et puis des interruptions jusqu'à des nouvelles formes d'amour. Et ça, c'est vraiment important. Hein. Et les féministes, je pense à Bell Hooks, je pense à Audre Lorde, hein, nous ont alertés sur la nécessité, en plus, ou Gloria Anzaldúa, en plus de dénoncer, de faire de la pédagogie, de créer des alternatives qui soient durables. Encore une fois, si le capitalisme, si la sexualité coloniale fonctionne, c'est qu'elles ont réussi à créer des agencements qui fabriquent du désir, qui font bander, qui permettent aux gens de se rencontrer très rapidement, qui réalisent les scripts libéraux de la rencontre rapide, discrète, etc. Et donc face à ça, moi j'ai décidé de mener une forme d'indulgence, c'est-à-dire de situer toutes les matrices virilistes dominantes qui étaient également passées par moi, puisque nous ne sommes pas à l'abri d'un pouvoir qui se distribue dans nos corps, de les situer, puis progressivement d'apprendre à désirer autrement, à aimer autrement. Alors comment on fait? On se met au contact d'autres formes relationnelles. On explore petit à petit, très lentement. Il ne s'agit pas non plus de se mettre en danger. Moi, plus d'une fois, en refusant ces logiques-là, j'ai bien vu un effondrement psychique, un effondrement du désir, un effondrement psychique dans des vies qui sont déjà pas mal déstabilisées. Alors, ben voilà, la question, c'était est-ce que j'accepte la dose de fétichisation qui me permettait de rencontrer, ou alors est-ce que je la mets complètement de côté, je rencontre plus? Alors déjà, je rencontre pas beaucoup, je suis assez phobique sociale depuis 30 ans. Comment faire? Donc, j'ai décidé juste d'être indulgent, puis progressivement, dans un fondu enchaîné, hein, pour reprendre une métaphore cinématographique, de voir très lentement mon désir se métamorphoser, jusqu'à rencontrer des personnes que j'aurais pas rencontrées peut-être avant, j'en sais rien, jusqu'à désirer autrement, jusqu'à regarder d'autres films, d'autres formes de pornographie, d'autres formes de désir, jusqu'à laisser Eros, le dieu Eros, finalement prendre possession de mon corps. Devenir autre, devenir son propre daimon, de trouver sa singularité propre. Voilà.
Merci Marc. Est-ce que tu peux nous citer les deux extraits sonores?
Margarita Magiopoula de Margarita Zorbala, d'Ornella Vanoni. Thank you.
malheur. Poutine si le voli tonia. Poutine si le voli tonia.
Cet extrait sonore.
Alors, c'est une chanson italienne des années 70 que j'écoute depuis 10 ans, au moins une fois par jour, qui raconte de mémoire, parce que j'avais regardé la traduction de la chanson, comment une femme attend, donc l'appuntamento, ça veut dire le rendez-vous hein, en italien, c'est une femme qui attend son amant sous la pluie, un amant qui ne viendra pas. Alors, pourquoi j'ai choisi cette chanson ? Non pas pour ses effets de romantisation comme ça. D'une violence masculine, mais pour dire à celle qui l'écoute notamment, mes chéris, n'attendez jamais, barrez-vous.
Vous venez d'écouter un entretien de Marc Jaja, mené par Julien Bélanger. Une discussion en écho à une programmation spéciale de Jet sur les masculinités toute la semaine. Cette programmation est à retrouver en podcast sur le site de Jet FM. Demain à 18h dans Mégaphone, vous pourrez entendre deux autres entretiens. Celui de Sikou Niakate, auteur-réalisateur, qui nous parlera notamment des injonctions sociales dont les hommes sont à la fois acteurs et prisonniers, et de son cheminement personnel de déconstruction ou de réenchantement. Dans le quatrième et dernier podcast, vous pourrez écouter Océan. Il est auteur, réalisateur et comédien. Il nous parlera de son parcours d'homme transgenre et de son engagement militant pour fluidifier et abolir les genres. C'est déjà la fin de cette émission Nuage Delay. Tout de suite après, retrouvez une rediffusion de l'émission Connexion qui s'intitule Aimer. Bonne soirée sur JTFM.